culture d'islam par Al-Ibn Sheikh. Aujourd'hui, nous parlons d'art de l'islam. Pour en parler, j'ai plaisir à vous présenter Yannick Lins, qui nous fait l'amitié de venir ce matin. Elle est conservateure générale du patrimoine et directrice des arts de l'islam au musée du Louvre. Yannick Lins, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous avons choisi de parler d'art, et notamment d'art de l'islam aux arts islamiques, au pluriel. Vous allez nous préciser toutes ces notions.
Oui.
Parce que dans notre émission Culture d'Islam, où le S ne s'entend pas, les cultures sont au pluriel. Et dans ces temps troubles, en ces temps de barbarie, en ces temps de violence, il n'y avait pas mieux aussi de parler de comment l'art est miroir du sacré, comment aussi dire l'indicible, comment exprimer l'ineffable. Et il se trouve que le génie humain, quel que soit le contexte et quelle que soit la sphère confessionnelle, civilisationnelle, eh bien, il a essayé de le manifester par l'art. Alors, voudriez-vous nous dire déjà qu'est-ce qu'on entend par art de l'islam ou arts islamiques ?
Oui, bien sûr, c'est un terme effectivement que peu de gens comprennent parce qu'il est difficile à comprendre. Quand je parle des arts de l'islam ou de l'art islamique, on me dit souvent, mais pourquoi ne parle-t-on pas dans ce cas-là d'art chrétien ? On parle d'une histoire de l'art occidental. Et pourquoi ne parle-t-on pas d'une histoire de l'art oriental ? Je dirais que pour moi, c'est finalement assez simple, puisque l'islam, bien sûr, est une religion, mais on le sait tous, est une civilisation. Et c'est dans ce sens-là, une civilisation complexe, multiculturelle, multireligieuse. Et c'est bien dans ce sens-là, effectivement, qu'il faut entendre cet art aujourd'hui appelé art de l'islam, mais qu'à la fin du 19e, on pouvait appeler art musulman, ou quand on était au Caire en 1903, on pouvait appeler art arabe. Voilà, mais donc sans vouloir à chaque fois expliciter en 10 lignes ce qu'on entend par art de l'islam, je pense qu'on peut retenir que c'est effectivement l'ensemble de cette production artistique qui naît avec l'apparition de l'islam qui va s'étendre sur, je dirais, 10 siècles, puisque nous étudions et nous montrons cet art jusqu'au 19e siècle sur un territoire qui s'étend pour nous de l'Espagne jusqu'à l'Inde moghole.
Oui. Lors d'une émission précédente, nous voulions préciser le vocabulaire utilisé et chez les typographes, les éditeurs empruntent cette façon d'écrire quand il y a le I majuscule. Il s'agit de l'ère aïeuse civilisationnelle et des peuples qui ont embrassé la tradition religieuse islamique. Mutatis mutandis, c'est comme si c'était la chrétienté. Et quand il s'agit de I minuscule, il s'agit plutôt de l'édifice religieux et spirituel. Et là aussi, ce serait l'équivalent du christianisme, pour prendre l'exemple que vous avez si bien voulu choisir. Donc ces arts de l'islam couvrent une étendue qui va depuis l'Atlantique ou l'Espagne à l'ouest jusqu'aux confins de la mer de Chine, dans certains cas, pour l'ouest. Et l'étendue temporelle, cette fois-ci, la fresque historique, c'est du 9e siècle au 19e.
Oui, sachant que on pourrait dire jusqu'au 20e siècle. Par exemple, si l'on regarde les arts de l'islam du côté du Metropolitan Museum de New York, nous allons jusqu'au 20e siècle, jusqu'à la création contemporaine. Il se trouve que le Louvre, dans son histoire de l'art, s'arrête au 19e siècle dans la répartition avec le musée d'Orsay et le musée d'art moderne du Centre Pompidou. C'est pour ça que nous arrêtons aussi notre histoire au 19e siècle. XIXe siècle. On pourrait aussi rajouter dans la description géographique que vous avez évoquée et que j'avais rappelée, qu'on m'interroge aussi souvent, mais pourquoi n'y a-t-il pas effectivement d'art islamique chinois au musée du Louvre ou d'art islamique africain au musée du Louvre? Et effectivement, quand on parle des arts de l'islam au sens universel du terme, je crois qu'il faut avoir en tête que cet art est effectivement multiculturel sur un territoire encore plus étendu que celui que l'on a la chance de présenter au musée du Louvre.
Alors peut-être encore lever une ambiguïté. On l'appelait effectivement au tournant du XXe siècle et encore en Égypte les arts arabes, mais en réalité, qui dit arabe ne dit pas nécessairement islamique, bien entendu. Comment la genèse et l'idée d'un département dédié aux arts de l'islam est-elle née?
Alors, si l'on part de la genèse d'un département, au sens où on l'entend au musée du Louvre, c'est-à-dire d'un musée dans le musée, hein, puisque quand on parle d'un département du Louvre, on parle quasiment d'un musée spécifique à l'intérieur du musée du Louvre. Cette idée-là, elle date de 2003. Il faut le rappeler, c'est Jacques Chirac qui était à ce moment-là dans son discours de la fracture sociale et dans l'intérêt qu'on lui connaît sur les arts extra-européen, et c'est lui qui a décidé, je dirais, de la création symbolique du département des arts de l'islam dans le musée de culture universelle. Après, ce qu'il faut aussi rappeler, je pense que c'est important pour les auditeurs, c'est que les arts de l'islam, les collections sont présentes au Louvre dès l'ouverture du Muséum central des arts en 1793. Il y a déjà des arts de l'islam, puisque nos rois de France, Louis XIV par exemple, adoraient les jades venues de l'Empire ottoman, ou parfois même au-delà, et ces rois et ces princes et ces aristocrates français et européens collectionnaient déjà ces objets avec, je dirais, en lien avec toutes les relations diplomatiques que nos États avaient quasiment dès le Moyen-Âge avec ces pays-là. Mais je dirais que la création du domaine artistique des arts de l'islam dans la tradition d'une étude d'histoire de l'art telle qu'on la développe en Occident, elle apparaît vraiment dans le dernier tiers du 19e siècle où effectivement se formule progressivement cette idée d'une histoire de l'art islamique qu'on n'appelle pas art islamique effectivement, qu'on appelle, on le voit dans les ouvrages qui paraissent, une histoire de l'art musulman. Mais c'est là que se formalise à la fois, je dirais, d'un point de vue académique auprès des savants et des historiens de l'art, cette question de l'art islamique, et c'est là aussi où s'enrichissent les collections particulières et les collections du musée du Louvre. Ces collections du musée du Louvre qui sont en fait enrichies par les donations des collectionneurs qui très vite achètent pour le musée. Et ce qu'il faut aussi, je crois, toujours rappeler, parce que nous essayons encore aujourd'hui d'être dans cette tradition, c'est que le Louvre lui-même décide dès 1893 de réserver, alors on n'appelait pas ça un département, mais une section pour les arts musulmans, avec une présentation spécifique de cette collection, et dès 1895 achète un des trésors du département, qui est la fameuse pyxide ou boîte en ivoire sculptée magnifique, omeyyade de Cordoue, et je dois dire que c'est un parti pris fort du Louvre à ce moment-là de s'impliquer dans l'achat d'œuvres d'art islamique.
Alors Yannick Lys, vous avez commencé d'emblée par cette pièce magnifique, monumentale. Nos chers amis auditrices et auditeurs ne la voient pas encore. Et je pensais en parler au cours de l'émission, mais tout de suite, c'est une pièce extraordinaire, taillée d'un bloc dans l'ivoire.
Oui, je pense que c'est une très belle introduction à ce que peut être l'art islamique ou les arts de l'islam. On la découvre dans notre parcours quasiment à l'entrée du département, puisqu'elle est produite très tôt dans cet art islamique. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'elle contredit à sa manière tous les préjugés que l'on peut avoir sur l'art islamique, que l'on dit être un art de l'abstraction, un art de la calligraphie, alors que cette pièce, je dirais, quand on la regarde, elle est sculptée dans chaque millimètre carré de sa matière et elle fascine autant, je crois, par la finesse absolument spectaculaire de son travail de sculpture qui en fait, je dirais, un chef-d'œuvre absolu de la sculpture universelle, et elle raconte aussi une histoire
c'est
politique.
C'est quasiment une écriture, voilà. Figurée ou figurative.
Voilà.
Alors, pas moins de 69 figures si on tient compte du couvercle, mmh. Et c'est dédié au prince Al-Mughira, le dernier fils du calife Omeyyade d'Occident, Abderrahman III, et c'était un peu dans la rivalité qu'il y avait entre les Abbassides à Bagdad et les Omeyyades d'Occident à Cordoue. Donc c'était quelque chose qui magnifiait la gloire des Omeyyades. Mm. Quelle autre pièce, nous ne suivrons pas nécessairement l'ordre chronologique des choses, dont vous pouvez aussi parler du même ordre que cette pyxide d'Al-Mughira, comme on l'appelle?
Bien sûr qu'on pourrait évoquer des dizaines, voire des centaines de pièces, puisque nous présentons plus de 3000 œuvres qui sont parmi les plus importantes dans les chefs-d'œuvre d'art islamique. Mais si je voulais donner envie à nos auditeurs de découvrir ces œuvres, par exemple, parmi les œuvres fascinantes aussi du département, il y a cette vaisselle en métal incrusté de l'époque ayoubide ou mamelouk, donc on est en plein, je dirais, dans le Proche-Orient médiéval, que l'on connaît aussi forcément par l'épisode des croisades, c'est l'époque de Saladin ou d'autres, et je pourrais évoquer moult pièces que nous avons, dont le fameux baptistère de Saint-Louis, alors qui est bien sûr, je dis souvent, notre joconde des arts de l'islam, qui a été fabriqué en Égypte et ramené selon une histoire compliquée, mais en France, et qui a à un moment donné de son histoire servi de baptistère au roi de France. Mais ce qui est fascinant dans ce type d'objet, c'est qu'on y découvre non seulement je dirais la qualité des artistes dont nous avons sur ces œuvres même la signature et le commanditaire, puisque ce sont des pièces qui étaient destinées aux sultans eux-mêmes. Ce que je trouve fascinant quand on regarde ces pièces, alors le baptistère ou d'autres autour, c'est qu'on y découvre aussi une réalité multiculturelle de cette époque de la Syrie, notamment de l'époque de Saladin, parce qu'on a de nombreuses pièces qui illustrent par exemple des scènes chrétiennes et qui posent aussi la question dans cette Syrie de l'époque de Saladin, de l'importance des chrétiens dans cette société d'Orient, et qui finalement à l'époque étaient soit les commanditaires, soit en tout cas parfois les artistes aussi et les artisans au service des sultans. Donc non seulement ça nous amène par l'image, par ces représentations dans l'évocation de ce milieu aristocratique autour de Saladin, mais ça nous permet aussi de comprendre mieux, je crois, ce multiculturalisme.
Pour donner simplement un repère historique pour les auditeurs, Saladin, la reprise de Jérusalem, notamment, on est en 1187, donc on se rapproche de la fin du XIIe siècle. Peut-être une dernière pièce aussi pour donner envie davantage aux auditeurs de venir.
Je vais peut-être quand même jouer le jeu de la chronologie et nous avancer dans l'époque plus moderne du XVIe siècle, de ce qu'on appelle l'époque des empires modernes, où ce monde de l'islam est dominé par trois grands empires, l'empire ottoman, bien sûr, l'empire safavide en Iran et le grand empire moghol en Inde. J'aimerais évoquer peut-être une scène parmi d'autres, mais une très belle scène de joute oratoire de poésie dans un panneau décoratif plein de couleurs de l'époque safavide qui vient d'un des palais de la capitale safavide d'Ispahan. Et j'aime beaucoup montrer cette œuvre parce que là aussi, je dirais qu'elle nous donne cette image de finesse intellectuelle, culturelle et de douceur aussi de vivre de cette culture islamique de l'époque safavide et elle nous plonge en plein dans ce que pouvaient être aussi ces échanges poétiques et la poésie est quand même une part importante notamment de l'art iranien et voilà, donc ça nous fait rentrer dans un autre univers que l'univers religieux, que l'univers des chevaliers médiévaux, pour nous faire rentrer dans ce Versailles iranien du XVIe siècle.
Alors pour revenir à la galerie ou au département, en tout cas, c'est quoi ce toit sous forme de libellule comme ça déjà ?
Vous y voyez une libellule. L'idée de départ était d'en faire une sorte de tente symbolique aussi, protégeant ce trésor d'art islamique. Il est vrai que la création du département en 2003 a entraîné un énorme projet architectural puisqu'il fallait trouver un emplacement imposant pour cette collection qui se trouvait en plus augmentée de près de 3000 œuvres que l'on récupérait du musée d'art décoratif. Donc cette collection s'est énormément enrichie et donc la présentation se fait dans cette architecture nouvelle conçue par l'architecte italien Rudy Ricciotti. Et cette construction s'est faite à peu près au seul endroit que l'on pouvait agrandir au Louvre, c'est-à-dire à l'intérieur d'une des cours, la cour dite Visconti, donc du côté de la Seine, où la galerie a été construite en profondeur puisque les collections sont présentées sur deux niveaux, donc le niveau en sous-sol et le rez-de-chaussée qui effectivement, contrairement à la conception architecturale des années 90 qui ont couvert d'un toit de verre les cours du côté de la rue de Rivoli pour y présenter les sculptures françaises, là il s'est agi d'imaginer une architecture de verre et de cette résille métallique qui laisse passer la lumière à l'intérieur même de cette cour.
Quelle est l'économie générale muséographique qui sous-tend la présentation des objets et de ces pièces pour un visiteur curieux de découvrir ces arts de l'islam?
L'idée qui a été mise en œuvre à l'époque, qui n'était pas la mienne mais que je trouve remarquable, qui était celle de mon prédécesseur Sophie Macariou, était de dire il faut essayer d'être le plus pédagogique possible, sachant que qu'on le veuille ou non, c'est une histoire compliquée de l'art, puisqu'il y a une succession de dynasties qui se succèdent, mais sur des territoires géographiques qui varient, etc. Donc l'idée est donc d'avoir choisi un parti pris chronologique en quatre temps, présentant d'abord les premiers empires, c'est-à-dire les Omeyyades et les Abbassides. C'est le moment où ce monde islamique est uni culturellement, linguistiquement aussi pendant un moment. Ensuite, les deux autres sections que l'on suit chronologiquement présentent, si l'on veut employer un vocabulaire occidental, le Moyen-Âge, mais ce Moyen-Âge connaît une rupture fondamentale.
Ce que d'aucuns appellent le Moyen-Âge latin.
Voilà. Et cette rupture, c'est l'arrivée des Mongols qui va effectivement depuis l'Asie centrale et qui va non seulement dans un premier temps ravager le monde iranien jusqu'à la Méditerranée, mais qui va aussi reconstruire avec des nouveaux codes culturels, des influences chinoises notamment, etc., cette vie culturelle et artistique. Et puis nous terminons dans un quatrième temps par cette époque moderne que j'évoquais avec les trois grands empires jusqu'au début du 19e siècle.
Nous sommes sur France Culture, dans l'émission Culture d'Islam, où nous recevons ce matin Yannick Lins, conservateur général du patrimoine et directrice des arts de l'islam au musée du Louvre. Yannick Lins, quand même la question se pose de la place, du rôle d'un tel département, le fameux 8e département du Louvre. Alors il y avait une option politique, une volonté politique, vous l'avez évoqué avec le président Jacques Chirac, mais il y a aussi d'autres dimensions et peut-être des messages à faire passer.
Oui, forcément, c'est un département qui n'a pas une place classique, je dirais, au Louvre. Autant les autres départements, je pense au département des peintures, des sculptures, des objets d'art, je dirais, s'inscrivent clairement dans une tradition d'histoire de l'art qui remonte au siècle des Lumières. Inscrire les arts de l'islam aujourd'hui dans ce musée symbolique de la culture universelle, dans le contexte social et politique actuelle, c'est forcément lui donner une réelle responsabilité, je dirais, culturelle, c'est évidente. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dans ce contexte que nous vivons tous quotidiennement, d'un islam que l'on identifie à la violence, à la barbarie, comme vous le disiez au début de l'émission, je pense que notre rôle, évidemment, avec la force symbolique du Louvre comme musée universel de civilisation, c'est de montrer en quoi ce monde de l'islam, au sens du I majuscule culturel et civilisationnel, permet au minimum la nuance et doit faire œuvre éducative pour un large public. Bien sûr, on pense beaucoup en ce moment et on a un certain nombre d'actions en cours vis-à-vis des adolescents et des jeunes, mais je dirais que tout le monde aujourd'hui, à tous les niveaux de la société, est concerné par une sensibilisation ou une connaissance minimum de cette civilisation et de ces cultures d'islam. Enfin, c'est évident. Et le département, je pense, puisque les œuvres d'art reflètent bien sûr une expression de la beauté et de la capacité humaine à produire la beauté, mais elles reflètent aussi justement toutes les caractéristiques d'une civilisation et d'une culture. Quel était le goût de ceux qui voulaient les posséder, de ceux qui les ont fait fabriquer, quel était leur rapport à la beauté, quelle était la capacité technique et artistique des artisans qui la faisaient. Donc ce département et l'art doit être, à mon avis, un appui pour faire comprendre de manière, on va dire, décontractée et pédagogique cette civilisation à laquelle, qu'on le veuille ou non, nous sommes aujourd'hui confrontés.
Oui, et tout visiteur sera, je ne dirais pas fasciné ou subjugué par ce qu'il trouvera, mais en tout cas reverra sa position sur certaines idées qui seront déconstruites à propos de l'art islamique. D'abord, ce n'est pas un art de bédouin, comme d'aucuns le disent, mais c'est un art de cour.
Oui.
Un art où la sculpture est présente, nous l'avons évoqué avec la pyxide du prince Al-Mughira, mais aussi pas exclusivement un art religieux, c'est un art profane.
Oui, tout à fait. Et ça, c'est un des grands messages que l'on essaye de faire passer auprès du visiteur, mais je dirais chaque fois qu'on le peut, parce que il y a effectivement, à travers le mot islam, cette ambiguïté de se dire on n'y voit qu'un art religieux. Et à chaque fois, effectivement, il faut rappeler que cet art et cette culture du monde islamique est un art princier, aussi. Bien sûr qu'il y a un art religieux, comme on peut voir aussi des trésors d'église au département des objets d'art du Louvre pour l'art occidental.
Et là, en l'espèce, ce sont des enluminures du Coran ou d'autres ouvrages.
Alors, nous avons des Corans, nous avons des pages de Coran, bien sûr. Nous avons des décors architecturaux qui viennent de mosquées, qui viennent de mausolées de saints, donc de l'architecture décorative, on dirait, d'objets. Nous avons de magnifiques lampes de mosquées d'époque mamelouque, donc plutôt, on va dire, essentiellement du XIIIe siècle, provenant des grandes mosquées du Caire de l'époque. Donc, bien sûr que nous avons de l'art religieux et il faut le rappeler avec force. Mais il faut aussi élargir ce spectre et on découvrira largement que l'on présente ce que j'appelle souvent effectivement le Versailles iranien, le Versailles turc ou les grands palais du monde arabe.
Oui, vous avez des parties d'architecture, une architecture palatiale.
Tout
d'une civilisation impériale.
Tout à fait. Oui. Alors, cette architecture palatiale, c'est ça qui est extraordinaire, je trouve, dans ce parcours. C'est qu'on découvre autant les palais du Moyen-Âge, puisque nous avons énormément d'architecture. Alors, le grand décor architectural, je dirais, de l'art médiéval arabe ou iranien, c'est les carreaux en céramique, avec toutes sorte de technique de décor, hein, et nous avons sans doute l'une des plus riches collections qui évoque la. Il suffit quand on a la chance d'aller en Iran, au Maroc ou ailleurs pour comprendre ce qu'est la splendeur de ces carreaux de céramique peints et qui était le décor de ces grands palais. Mais nous avons aussi effectivement les décors plus récents des empereurs d'Istanbul, des empereurs safavides, des grands palais officiels d'Ispahan qui nous permet d'évoquer la splendeur de ces lieux. Je rajouterai que je pense que ça peut être intéressant pour l'éditeur de savoir aussi que nous réfléchissons régulièrement à comment améliorer l'évocation de ces monuments. Et il faut bien dire que quand on l'évoque par le verbe, je pense qu'on est capable de faire rêver le visiteur. Il faut dire aussi que notre difficulté aujourd'hui, c'est comment évoquer la splendeur de ces monuments à travers un ou deux mètres carrés de ces décors resplendissants. Et ça, c'est, je dois dire, un de nos enjeux dans les années qui viennent, c'est donner à voir ou à évoquer le plus possible aux visiteurs la splendeur du contexte de ces villes, parce qu'il faut dire aussi, et vous disiez à juste titre, que les arts de l'islam ne sont pas un art de bédouin, et c'est de fait un art des villes. Et il faut qu'on ne peut pas, bien sûr, transporter à chaque fois les villes dans nos espaces, mais nous avons à faire voir de l'architecture qui évoque cette vie palatiale et impériale ou royale, et il faut que l'on puisse permettre aux visiteurs de comprendre cela. Les œuvres que l'on voit au Louvre sont les objets de luxe aussi, les trésors en cristal de roche, en pierres précieuses, en métal incrusté d'or et d'argent, en céramique aussi de luxe, pailleté parfois d'or, par exemple, ce raffinement, je dirais, de l'usage quotidien de ces objets dans les palais.
Alors, vous parlez de raffinement et on pourrait penser que l'art comme projection aussi de la beauté, pour certains, ce serait antinomique, voire oxymorique avec la notion d'islam. Et nous avons connu, hélas, une annus horribilis avec 2015, chez nous, par des vies humaines innocentes fauchées, de par le monde, des vies humaines aussi, et à côté de cela, tout un patrimoine de l'art. Mais l'émotion médiatique a porté davantage sur l'art pré-islamique. Et vous me disiez en préparant cette émission que tout autant l'art islamique, cette fois-ci, était atteint et détruit. Alors, quelle action menez-vous pour, à tout le moins, essayer au moins de le faire savoir et d'essayer de rattraper?
J'ai souvent l'occasion de dire, quand je prends la parole sur cette question, dans les nombreux débats quasi quotidiens actuellement sur ces questions, que on peut d'abord se dire que la question du patrimoine et des objets ou des monuments est vraiment secondaire par rapport à la tragédie humaine que traversent ces régions et qui nous ébranle aussi. Ça, je crois que c'est un précédent, effectivement, à préciser. Maintenant, cette tragédie humaine, c'est aussi la perte énorme d'une mémoire, d'une mémoire culturelle, par la disparition à grande échelle de ce patrimoine. Alors ce patrimoine, effectivement, n'est pas que le patrimoine que l'on évoque énormément de manière symbolique à travers Palmyre, sa destruction et maintenant sa restauration que l'on espère de manière accélérée. Je crois qu'il est important là aussi de lutter contre les préjugés et de ne pas rester dans ce non-dit de l'islam qui détruit les civilisations pré-islamiques. Alors, sans rentrer dans le détail, on peut comprendre que l'Occident s'émeuve d'une civilisation gréco-romaine ou d'une archéologie biblique autour de la Mésopotamie qui est la source même de notre culture. Bien sûr que nous aussi, nous sommes émus de cela, mais je pense qu'il est important de rappeler que la tragédie patrimoniale touche aussi effectivement ce patrimoine, ces trésors, ces monuments, ces objets, ces manuscrits nombreux en Syrie, en Irak, qui évoquent cette histoire importante du Moyen-Âge que nous évoquions, ou des Ottomans par exemple dans la région. On ne peut citer par exemple, si on veut un exemple symbolique, c'est la ville d'Alep. Oui. C'est absolument catastrophique. Je suis en contact régulier avec différents Syriens, je dirais, qui soit vivent encore à Alep ou qui s'occupent en tout cas de la sauvegarde minimum du patrimoine. On a quand même des trésors de l'humanité. Alep est un trésor protégé au patrimoine mondial de l'humanité. À travers ses mosquées, ses madrassas, voilà, son architecture ottomane, et c'est une catastrophe.
Et si on va encore plus au sud, dans la péninsule arabique, au Yémen, avec ses villes, à Sanaa, à Aden, voilà. Aussi. Donc voilà. La catastrophe et la tragédie s'abat dans cette région du monde. Vous avez aussi maintenant un travail de coopération et de collaboration avec vos homologues sur place, aussi oui. Bien en Égypte et qu'en Iran.
Oui, parce que je pense, enfin, une chose est effectivement de participer à la sauvegarde du patrimoine détruit, mais je pense qu'il est aussi très important d'être dans des démarches dynamiques parce que ce monde arabe et ce monde iranien, pour ne parler que d'eux, je pourrais aussi évoquer les Turcs, mais il suffit de se rendre effectivement dans ces pays du monde arabe, et l'Égypte forcément est un des grands exemples, pour sentir le dynamisme de ces pays pour valoriser leur culture, leurs musées. Et je pense que c'est une des missions attendues, en tous les cas, de ces pays-là, que le département des arts de l'islam les accompagne dans la valorisation de leurs musées, de leur patrimoine, de leurs collections. Et donc, nous avons effectivement récemment signé deux accords qui me semblent fondamentaux pour l'avenir de nos projets avec eux. C'est les accords avec l'Iran, qui effectivement maintenant réouvre aussi sa coopération culturelle. Le Louvre est impliqué en Iran depuis la fin du 19e siècle, dans les fouilles archéologiques, bien sûr. Et je dois dire que je suis heureuse de voir que nous avons pu être le premier pays à signer un accord avec eux. Et j'étais en visite officielle il y a 3 semaines avec le président du Louvre. Nous avons notamment rencontré le ministre de la Culture. Sa première proposition a été de dire « Nous voulons traduire en persan le beau livre qui est sorti à l'occasion de l'ouverture du département des arts de l'islam pour diffuser cette civilisation. » Et alors je lui ai précisé que notre collection ne comprenait pas que des œuvres iraniennes. Il a dit « Mais c'est justement pour cela que nous voulons le traduire en persan, pour montrer ce qu'est l'art islamique à travers une collection universelle. » Et notre coopération avec l'Égypte s'inscrit dans le cadre d'un travail avec le musée d'art islamique du Caire, qui, comme vous vous rappelez peut-être, a subi en janvier 2014 une destruction quasi complète à cause de l'explosion d'une bombe en face d'un musée qui venait de réouvrir 4 ans avant dans une belle muséographie. Nous avons donc depuis 2 ans tenté d'accompagner ce musée et l'équipe de ce musée pour la restauration des œuvres et la réouverture du musée qui est imminente. La date n'est pas encore fixée, mais je pense que c'est symboliquement intéressant aussi que ce département du Louvre s'inscrit dans cette longue tradition commune avec l'un des premiers musées d'art islamique au monde, qui était le musée du Caire.
Bien. Alors pour revenir à Lyon, parce que je ne voulais pas vous interrompre, vous pensez que par le biais de la culture, via les arts, la beauté, il y a un moyen de débranler les rigidités, les crispations politiques.
Moi, je vous dirais, au risque de vous choquer, oui, évidemment, sachant que...
La question a été voulue dans ce sens-là, donc je ne serai pas le premier à être choqué. C'est pour les auditeurs aussi qui pourraient peut-être penser qu'il y a là une sorte d'occultation des difficultés politiques et on aborde les questions culturelles uniquement. Mais en réalité, il y a là de quoi peut-être convertir les autocrates.
Bien sûr, bien sûr. Et je peux vous dire que les partenaires avec lesquels on travaille, comme vous pouvez l'imaginer, c'est l'aile réformiste de l'Iran. Et eux-mêmes, on le sent, en font un enjeu de consolidation, pérenne de l'ouverture de l'Iran à l'étranger. Je ne dirais pas forcément qu'à l'Occident, mais on sent bien que... Et la culture n'est pas instrumentalisée. Hein. Enfin, je pense suffisamment connaître les subtilités de la société iranienne pour comprendre d'abord qu'il y a une vraie tradition culturelle en Iran, enfin, qui est antérieure à la révolution iranienne, et que la société iranienne est fondamentalement restée culturelle, et que, bien sûr, qu'aujourd'hui, c'est un enjeu aussi d'éducation à la tolérance.
Oui, et au-delà même de la tolérance, c'est une exigence de respect, d'amour, de prise en compte de l'intérêt d'autrui, de sollicitude et d'ouverture sur autrui et sur le monde. Yannick Lintz, vous avez aussi entrepris, dans le cadre de ces échanges, une sorte de mise en place d'expertise de restauration des monuments détruits, partiellement ou totalement. Et ça suit son cours. Il y a un programme d'élaboration, des travaux, des choses de cet ordre.
Oui, alors notre rôle, si vous voulez, alors c'est vrai par rapport à ce patrimoine syrien et irakien que nous évoquions, mais c'est vrai aussi par exemple dans le travail que nous entreprenons avec le ministère des Habous au Maroc. L'expertise, comme on dit, que nous pouvons avoir et que nous tentons...
Les Habous étant les biens de main morte, ceux qui décèdent sans laisser d'héritier, donc les fonds iront à ce ministère-là, qui est aussi celui des affaires religieuses.
Voilà, et qui possède donc l'ensemble des mosquées, des madrassas et donc l'essentiel du patrimoine islamique au Maroc. Donc notre expertise, c'est, comme vous le disiez, effectivement, elle est d'accompagner les conditions de conservation et de restauration de ce patrimoine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une expertise? Ça veut dire connaître ces monuments. Les connaître, c'est les connaître dans leur état originel et dans les différentes étapes qu'ils ont pu connaître depuis leur création jusqu'à aujourd'hui, de transformation, parfois sur plusieurs siècles, parce que pour restaurer, il faut connaître. Le premier qui a démontré ça était Viollet-le-Duc, au XIXe siècle, quand il restaurait la basilique de Vézelay, il a compris qu'il s'agissait pas juste de reconstruire ce qui manquait, mais qu'il fallait comprendre quel était le plan d'origine, les décors d'origine, comment ils avaient pu être restaurés au cours des siècles et quel choix faire aujourd'hui. Et pour aider, je dirais, les États concernés, enfin, et nos collègues dans ces différents pays, eh bien, nous pouvons leur apporter cette expertise d'une documentation que nous essayons de rassembler. D'abord, nous avons une documentation de base très riche au musée du Louvre, puisqu'un département des arts de l'islam, c'est des collections que l'on montre, mais c'est aussi des archives que l'on accumule depuis la fin du XVIIIe siècle sur ces collections. Et nous avons développé depuis l'année dernière un vrai programme de travail avec l'ensemble des collègues de l'université et du CNRS pour faire ce qu'on appelle entre nous une collecte d'archives scientifiques et essayer d'accélérer l'enrichissement de documentation sur les pays, les villes et à l'intérieur des villes ces monuments pour permettre effectivement d'accompagner cette conservation et cette restauration.
Et puis, dans un autre contexte, pour revenir à notre pays, ici en France, bientôt, et c'est le 6 juin, qu'il va y avoir une grande présentation à l'auditorium et en présence de la ministre de la Culture d'une journée d'études pour les arts islamiques.
En France.
En France.
Oui, c'est un aspect, un enjeu qui me semble important aussi, parce que depuis le début de l'émission, nous parlons de ces territoires qui peuvent être lointains, méditerranéens ou asiatiques. Mais je pense qu'il est très important aujourd'hui pour la société française de rappeler ou de faire savoir que nous avons un patrimoine d'art islamique en France. Ce patrimoine se trouve autant dans les trésors d'église, ce qui peut surprendre, mais aussi depuis le 19e siècle dans les 1200 musées français dispersés à travers le territoire, dans les découvertes archéologiques que l'on fait régulièrement dans le sud de la France, où nous trouvons le témoignage de la présence de musulmans dès le 10e siècle. Et je pense qu'il est effectivement important, et c'est notre attente qui est d'essayer avec l'ensemble des musées français et l'ensemble des responsables des monuments historiques, de révéler au public et aux populations, c'est un rapport aussi à la mémoire locale et régionale, que dans l'église à côté de laquelle ou dans laquelle on a pu être baptisé, dans laquelle on s'est marié, eh bien, dans le trésor de cette église, il peut y avoir depuis le Moyen-Âge des trésors d'art islamique qui peuvent être, par exemple, des vêtements liturgiques des évêques ou des archevêques et qu'ils commandaient dans les ateliers musulmans du sud de l'Espagne ou du Maroc, ou qu'il y ait d'autres trésors venant de Syrie, d'Égypte, etc.
Et pour exemple, je prendrai celui de la basilique du Puy-en-Velay, oui, avec toute la graphie arabe incrustée sur ses parois. Ce n'est pas pour vous reprendre, et je ne me permettrai jamais, c'était pour dire que l'art islamique n'est pas extra-européen, selon l'expression utilisée tout à l'heure lorsque le président Chirac a eu cette idée de fonder ou d'instaurer ou de réserver en tout cas une aile pour en tant que 8e département du Louvre.
Oui.
Nous arrivons petit à petit au terme de notre émission. Pour simplement peut-être élever à la fois spirituellement et flatter l'essence de nos jeunes concitoyens, quels qu'ils soient, et peut-être davantage parmi eux, ceux qui sont de confession islamique, sachant que l'extrémisme et le culte sans la culture, ou le fondamentalisme et la croyance sans la connaissance, peut-être s'ils s'ouvrent à la beauté, aux splendeurs à la fois de l'œuvre artistique comme une projection de la beauté de la nature, il y a là, entre autres, un moyen de les sortir de l'ornière.
Oui, alors moi je vous rejoins tout à fait. Enfin, je dirais que c'est ce qui m'inspire chaque jour actuellement. Après, certains en nous écoutant peuvent se dire quelle naïveté. Mais je peux vous dire que je rentre d'Erbil dans le Kurdistan irakien et je m'entretenais avec le ministre de la Culture qui me racontait la réalité qu'ils vont devoir confronter dans les années, voire les décennies qui viennent sur la violence de leur jeunesse, la violence potentielle de leur jeunesse, soit idéologisée par Daesh, soit désespérée par la situation économique. Et j'étais très émue d'entendre que l'un des enjeux qu'ils voient apparaître, c'est l'éducation artistique et culturelle, ce qui peut paraître dérisoire, mais je suis contente d'entendre qu'un ministre ait cette intuition de se dire que cette sensibilisation à la beauté, c'est-à-dire à quelque chose qui peut nous rendre simplement heureux et qui nous apporte physiquement du bien, il faut pouvoir évidemment permettre aux jeunes de ressentir ce plaisir. Et je crois que ça s'apprend. C'est notre enjeu, mais ça s'apprend.
Alors, il y a un autre art, mais ce n'est pas pour ce matin, c'est celui de la musique. Et si les talibans qui chassaient les oiseaux, parce que de leur point de vue, leur gazouille les détournait de la prière, s'ils savaient que ce chant-là est une concélébration dédiée à l'être premier, peut-être là aussi ils changeraient de point de vue. Donc, du même ordre, quand on est touché par la beauté, comme une suprême, pour les croyants en tout cas, théophanie, une présence divine, il y a là peut-être un début de thérapie pour être immunisé contre toutes les tentations d'abord de radicalisation. Yannick Lins, qu'est-ce que vous souhaitez à l'avenir faire? Vous avez parlé de ces accords de coopération avec tout le pendant persan et puis arabe de César. Il y a d'autres contrées, les arts asiatiques, comme on les appelait à l'époque, dans leur coloration confessionnelle et civilisationnelle islamique. Vous pensez en acquérir des pièces, échanger, parce que vous avez un fonds que vous n'utilisez pas en totalité.
Oui, sur cette question, comme vous le disiez, des arts asiatiques, il se trouve que la semaine prochaine, je serai à Singapour, au musée des civilisations de l'Asie, pour inaugurer une exposition dans laquelle nous prêtons énormément sur les chrétientés d'Asie. Là aussi, paradoxalement, les œuvres du Louvre prêtées viennent du département des arts de l'islam. J'y vais bien sûr pour inaugurer cette exposition, mais j'y vais aussi et je m'intéresse de plus en plus à cette question des arts islamiques dans l'Asie Pacifique, comme on dit, pour avoir maintenant établi des contacts avec ces pays et notamment, je pense aussi à l'Indonésie. Jakarta, aujourd'hui, s'intéresse beaucoup à l'art islamique et c'est intéressant de voir combien ces pays, dans leur développement de musées, considèrent désormais les arts de l'islam comme prioritaires dans la présentation au public. Alors, ceci dit, je ne m'y intéresse pas que pour savoir ce qu'ils font eux, mais j'aimerais aussi, alors non pas à travers des acquisitions, parce que mener une politique d'enrichissement de collections, ça n'est jamais facile de le faire sur des nouveaux secteurs. Ça veut dire je m'intéresse énormément à la question de l'art islamique chinois, par exemple, mais je pense qu'il est pour nous plus pertinent de le faire connaître dans les années qui viennent au public par des expositions. C'est quand même l'événement d'une exposition temporaire qui peut permettre aussi tout à coup cet éclairage et cette pédagogie et cette ouverture de palette sur le monde islamique. Et je pense qu'effectivement, c'est même si on se dit qu'on ne connaît pas très bien l'art islamique du monde arabe ou du monde iranien, mais l'un dans l'autre, je pense qu'on en a une familiarité quand même, ou qu'on peut l'avoir assez vite en venant au Louvre. Autant on ne connaît rien ou pas grand-chose sur l'art islamique chinois ou l'art islamique indonésien. Voilà, même si nous avons acquis quelques ouvrages récemment, mais plutôt en art du livre. Donc c'est un des axes qui m'intéresse énormément dans les années qui viennent, d'essayer de montrer, d'ouvrir cette palette du multiculturalisme.
La collection des arts de l'islam, des objets, en tout cas des pièces, dépasse et de beaucoup ce que vous exposez. Alors, si je puis dire, quelle est la durée de vie d'une présentation, d'une exposition de telle ou telle pièce, et comment se fait, si vous me pardonnez l'anglicisme, le turnover?
Alors, dans nos collections permanentes, c'est vrai que nous avons à peu près 3000 œuvres présentées. Le choix qui avait été fait au moment de l'ouverture en 2012, j'estime honnêtement que c'est un très bon choix, un choix pertinent, parce que les œuvres présentées, je dirais à 90%, sont des œuvres de référence, comme on dit, pour illustrer tel ou tel aspect culturel à tel ou tel moment de l'histoire. Maintenant, nous avons effectivement une politique d'acquisition d'œuvres nouvelles assez active et nous sommes en train de faire sans doute une très belle acquisition. Il est clair que les nouvelles acquisitions, nous les montrons. Ce que nous faisons aussi, c'est que nous changeons régulièrement la présentation de deux domaines de collection qui sont simplement fragiles à la lumière et qu'il faut changer, qui sont les tapis. C'est vrai que nous n'avons pas évoqué jusqu'à présent cet art du textile qui est aussi absolument extraordinaire.
Et certaines tuniques.
Des tuniques, des costumes, les velours ottomans ont quand même fait la gloire dans toutes les familles princières européennes. Donc nous avons une collection aussi importante de tapis que nous montrons et où nous changeons la présentation deux fois par an. Et puis, ce qu'on appelle aussi l'art du livre au sens large, donc les peintures miniatures, bien sûr, mais aussi les calligraphies, où nous changeons tous les trois mois. Et nous préparons, je dirais, un petit événement à partir de 2017, c'est que nous allons aménager à l'intérieur de notre espace de collection permanente ce qu'on appelle un espace d'actualité, c'est-à-dire à peu près 100 mètres carrés, où nous allons deux fois par an avoir autour d'une dizaine d'œuvres, une histoire. C'est-à-dire, l'idée, c'est raconter des histoires autour des objets et nous ne pouvons pas le faire à chaque fois dans les vitrines. Donc, nous allons aménager cet espace d'actualité pour raconter deux fois par an des histoires.
Alors, Yannick Lintz, une toute dernière question. Elle aurait pu venir au cœur de l'émission. Comment se fait-il que l'honnête homme, selon la définition que nous nous en faisions au XVIIIe siècle, pas nous-mêmes, ni vous ni moi, qu'il peut s'intéresser à l'archimo au Pérou, il peut s'émerveiller des estampes nippones d'Utamaru et qu'on le trouve ou réfractaire ou ignare des miniatures persanes, par exemple?
Alors, c'est vrai que je pense que l'art que vous évoquez est un art qui peut-être se rapproche, enfin la curiosité en tout cas des gens dans ce domaine est plus une curiosité, selon moi, ethnographique. L'art de la miniature, je dirais, est quand même interroge d'abord le goût de l'art en général. Et c'est vrai que les collectionneurs ou les amateurs de miniatures ne sont pas majoritaires dans la culture de l'honnête homme.
Merci infiniment. Merci beaucoup, Yannick Lintz. Je rappelle que vous êtes conservateur général du patrimoine et directrice des arts de l'islam au musée du Louvre. Vous êtes venu nous parler ce matin avec beaucoup de passion de ce département que vous dirigez, avec beaucoup d'abnégation, mais d'enthousiasme aussi. C'était Culture d'Islam par Ghaleb Bensheir. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attaché de production est Dominique Campetissa. La prise de son a été assurée par Claude Nior et la réalisation toujours avec Franck Lilin.